Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est midi à Brazzaville. Le nouveau président de la République tunisienne, Kais Saied, a prêté serment aujourd'hui devant les élus du Parlement et les plus hautes sommités de l'État tunisien. Monsieur Saied succède au chef de l'État par intérim Mohamed Ennasser, nommé pour 90 jours après le décès en juillet du premier président élu démocratiquement au suffrage universel en Tunisie, Béji Caïd Essebsi. Quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, M. Kais Saied, âgé de 61 ans, a été élu nouveau président de la Tunisie avec 72,71% des voix, devançant très largement l'homme d'affaires Nabil Karoui. Le Botswana vote depuis ce matin pour des élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées de son histoire, au point de menacer le règne sans partage du parti au pouvoir depuis l'indépendance il y a plus d'un demi-siècle. Les quelques 2200 bureaux de vote du pays ont ouvert leurs urnes dès 6h30 ce matin, 4h30 GMT, jusque-là loué pour ses pratiques démocratiques et sa stabilité exemplaire. Ce vaste pays d'Afrique australe, riche en diamants et en éléphants sauvages, est agité par une guerre fratricide entre son actuel chef de l'État et son prédécesseur. Le ministre français des Affaires étrangères est en visite au Cameroun. Jean-Yves Le Drian va encourager à cette occasion le président Paul Biya à poursuivre sur la voie des réformes après la libération d'opposants et l'ouverture d'un dialogue pour résoudre la crise dans les régions anglophones. Irénée Amanoubo.
Le chef de la diplomatie française rencontrera le président Biya et les chefs des partis représentés au Parlement, y compris d'opposition. Il faut que tous les acteurs politiques puissent regarder maintenant vers le futur, notamment les échéances électorales de l'an prochain qui sont nombreuses, souligne Paris. Selon l'entourage du locataire du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian va proposer une assistance technique dans la définition d'un statut spécial. La France est aussi prête à utiliser une partie de son aide au développement pour la poursuite du processus de décentralisation au Cameroun, notamment dans les zones anglophones. M. Le Drian rencontrera par ailleurs des chefs d'entreprise français et camerounais à Douala, la capitale économique du pays. Le ministre assurera aussi le Cameroun du soutien de la coopération sécuritaire de la France dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram.
Au Congo-Brazzaville, les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko ont demandé aux autorités de libérer l'opposant afin qu'il aille faire le deuil de sa mère décédée le week-end dernier à Pointe-Noire. Le général Mokoko a été condamné à 20 ans de réclusion au terme d'un procès sur l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Les explications sur place avec Arsène Séverin, notre correspondant.
Dans cette correspondance adressée au ministre de la Justice, quatre avocats du général Mokoko sollicitent une autorisation des sorties pour permettre à l'opposant d'aller enterrer sa mère à Pointe-Noire. Louise Onganya, 92 ans, est décédée vendredi dernier alors que son fils purge sa peine de 20 ans de prison ferme à la maison d'arrêt de Brazzaville. Juste après l'annonce de ce décès, les voix se sont levées du côté de l'opposition, demandant aux autorités de libérer l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 pour des raisons socio-humanitaires. D'autres estiment qu'il est enfin temps de décrisper le climat politique en libérant tous ses prisonniers, essentiellement le général Mokoko et André Oukombi-Salissa, deux anciens candidats. Les juristes qui se basent sur les cas de l'ancien président brésilien Da Silva Lula ou bien du sportif sud-africain Oscar Pistorius, libérés eux pour aller enterrer leurs proches, estiment que cette libération provisoire de Mokoko était possible si les autorités le voulaient bien. Mais remettre en liberté pour quelques jours celui que certains Congolais ont toujours considéré comme le vainqueur de la présidence le 2016 peut provoquer des mouvements incontrôlés si le gouvernement n'y prend garde. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
La Russie veut au minimum doubler en 5 ans ses échanges commerciaux avec l'Afrique, a déclaré aujourd'hui le président Vladimir Poutine, ouvrant le premier sommet Russie-Afrique, symbole du regain d'intérêt russe pour le continent africain. Il a par ailleurs indiqué que la Russie avait ces dernières années annulé des dettes africaines à hauteur de 20 milliards de dollars. Qu'est-ce qui fait courir la Russie sur le continent? Abdourahmane Dia, adjoint à Cotonou, Ignace Fanou, rédacteur en chef du site 24 heures au Bénin. Pour info, il a fait ses études en Russie.
Vous savez, pendant la période soviétique, on a constaté la présence de l'Union soviétique dans plusieurs pays africains, surtout les pays qui avaient choisi la voie révolutionnaire. Depuis la perestroïka menée par Gorbatchev et le coup d'État qui s'en est suivi, l'Empire soviétique s'est disloqué. Et aujourd'hui, quelques années après avoir réglé un peu ses problèmes internes, la Russie a voulu continuer cette mission que l'Union soviétique exerçait par le passé. Et c'est ça qui montre aujourd'hui le retour de la Fédération de Russie sur le continent africain.
C'est vrai que la Russie n'a jamais complètement quitté le continent après la chute du mur de Berlin, mais son influence y a fortement diminué, n'est-ce pas? Pourquoi cette volonté de redynamiser ses relations avec l'Afrique à ce moment précis?
La Russie a voulu reprendre cette mission que l'Union soviétique exerçait dans le temps-là. Et c'est ça qui montre un peu sa présence sur le continent pour montrer quand même que l'Union soviétique n'existe plus, mais la Grande Russie est toujours là. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un peu les richesses du continent qui préoccupent un peu tous ces pays-là.
Y compris donc la Russie.
Y compris la Russie. La Russie se ressent déjà dans plusieurs pays, surtout dans le secteur des mines, surtout en Centrafrique, où la présence de la Russie est beaucoup poussée dans les mines. Et ça gêne aussi énormément les Français. Ils sont aussi dans les pays comme la Guinée et autres, là, en Angola, un peu partout. Bon, les pays où ils avaient exercé un peu leur puissance au temps de l'Union soviétique, on a compris aujourd'hui que la Russie est en train de revenir un peu sur ce terrain-là, en RDC, un peu partout, sur tous ces pays qui avaient quand même des ressources. L'Afrique est un continent qu'il ne faut pas abandonner, il faut conquérir aussi.
Depuis 2010, le commerce entre la Russie et les pays africains a presque quadruplé, atteignant 20 milliards de dollars en 2018. Mais que peut tirer à son tour l'Afrique de ses relations avec la Russie?
Dans le domaine de la formation des cadres, il faut avouer que l'Union soviétique a formé beaucoup de cadres pour les pays africains, contrairement à certains pays occidentaux. En dehors de cela, peut-être dans le domaine des échanges de technologies, la Russie a un peu aidé beaucoup d'Africains à former des ingénieurs, à former des cadres dans le domaine de l'industrie et tout ça là. Et puis aussi, bon, n'oublions pas que la Russie a beaucoup d'expérience dans la réalisation d'infrastructures.
C'était Ignace Fanou, rédacteur en chef du site 24heures au Bénin.info. Hors du continent, le chef du Pentagone, Mark Esper, est arrivé aujourd'hui à Bagdad pour rencontrer les dirigeants irakiens, 3 jours après l'entrée au Kurdistan d'Irak de troupes américaines retirées du nord-est de la Syrie voisine. Cette visite intervient alors que le commandement militaire irakien a assuré mardi dans un communiqué qu'aucune autorisation n'a été délivrée pour que ces troupes restent sur le sol irakien. Le secrétaire américain à la défense doit être reçu par son homologue irakien et par le premier ministre Adel Abdul Mahdi. Une conférence inter-afghane destinée à trouver une solution au problème afghan se tiendra à Pékin, a annoncé le porte-parole des talibans Souhel Shahin, sans préciser qui y participerait. La délégation talibane menée par le cofondateur du mouvement, le mollah Abdul Ghani Bahada, se rendra en Chine les 29 et le 30 octobre. Ce déplacement a été décidé après une rencontre à Doha entre le mollah Bahada, qui est également le chef du bureau politique des talibans, et l'envoyé spécial chinois Deng Xijong. En Grande-Bretagne, le premier ministre Boris Johnson a annoncé la suspension de l'examen de l'accord de Brexit au Parlement, ceci à la suite du rejet du calendrier d'approbation voulu par le gouvernement. Le point avec Abdourahman Dia.
Après ce vote qui compromet sérieusement les chances d'une ratification avant le 31 octobre, le premier ministre britannique a indiqué devant les députés qu'il comptait demander aux Européens leurs intentions concernant le report demandé samedi. En attendant leur décision, nous allons suspendre cette législation, a-t-il déclaré. Rejeté avec 322 voix contre et 308 pour, ce calendrier prévoyait une approbation de la loi d'application de l'accord de sortie d'ici à jeudi soir. Mais le délai a été jugé trop court par les députés britanniques pour débattre d'un texte de 110 pages. De son côté, le président du Conseil européen, Donald Tusk, consulte depuis mardi soir les dirigeants des 27 membres de l'Union européenne sur la demande de prolongation de la date du Brexit.
Une grève générale a débuté aujourd'hui en Bolivie, où de nouveaux incidents ont éclaté dans la nuit pour protester contre le dépouillement des élections de dimanche, en passe de donner le président sortant Evo Morales vainqueur au premier tour. Alors que le lent décompte des votes se poursuivait dans la nuit de mardi à mercredi, le chef de l'État socialiste devait donner une conférence de presse aujourd'hui à la mi-journée. Il ne s'est pas exprimé publiquement depuis dimanche soir. Et puis la Chine prévoit de remplacer la chef de l'exécutif à Hong Kong, Carrie Lam, en difficulté après 4 mois de manifestations de plus en plus violentes dans le territoire autonome, a rapporté mercredi le journal Financial Times. En poste depuis mi-2017, Madame Lam cristallise la colère des protestataires dont la plupart réclament sa démission de la tête de Hong Kong, ex-colonie britannique rendue à la Chine en 1997. Dans 50 minutes, un nouveau journal et ce sera avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Écoute ça.